إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue aujourd'hui la lecture et l'étude de cet épître de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, intitulé « Leçons importantes pour toute la communauté ». Nous en sommes aujourd'hui à la leçon 7, dans laquelle l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a exposé les piliers de la prière. Vous retrouvez cette leçon à la page 24 sur le livret PDF. Donc avant de commencer à lire l'énoncé des piliers de la prière, je tiens tout d'abord à souligner que comme prévu, comme je l'avais annoncé lors du premier cours, nous nous contentons ici d'une étude concise et résumée, sans rentrer dans les détails de chacune de ces questions. Car l'objectif de l'étude de cet ouvrage est d'avoir une connaissance globale de ces points essentiels que nul musulman n'est censé ignorer. Et pour plus de détails concernant la description de la prière, vous pouvez revenir au cours que j'ai donné sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, basé sur le livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Et les cours sont disponibles sur le site annasiha.com. Donc comme on a dit aujourd'hui, on va voir les piliers de la prière. Les piliers de la prière, c'est tout ce qui fait partie intégrante de la prière et sans quoi la prière ne peut pas être valide. Tout ce qui fait partie intégrante de la prière et sans quoi la prière ne peut pas être valide. Donc la différence entre le pilier et la condition, c'est que les piliers ils font partie intégrante de la prière. Si l'un d'entre eux est oublié, alors l'unité de prière dans laquelle il a été oublié, elle devient invalide. Et il est obligatoire de l'accomplir entièrement. Contrairement à l'obligation qui, elle, peut être compensée par les deux prosternations, en fin des prières appelées les prosternations de l'oubli ou les prosternations de la distraction. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a donc dit « Les piliers de la prière sont au nombre de 14. Premièrement, la station debout lorsqu'on en est capable. Et ce d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Waqumu lillahi qanitin » et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. » C'est-à-dire dans la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, « A Imran ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu, prie debout, et si tu ne peux pas, alors assis, et si tu ne peux pas, allongé sur le côté. » Donc ce hadith, il nous prouve premièrement que la station debout, c'est un pilier de la prière. Mais que c'est un pilier dans quelles conditions? Lorsqu'on en est capable. Car celui qui ne peut pas, qui n'est pas capable de tenir debout, à cause d'un handicap ou d'une blessure, alors celui-ci, il va prier assis ou sur le côté en fonction de ses capacités. Également parmi les choses à noter au sujet de ce pilier, il y a le fait que c'est un pilier seulement dans la prière obligatoire, comme on a dit toujours pour celui qui en a les capacités. Quant à la prière surérogatoire, alors la station debout n'est pas un pilier dans celle-ci. Mais il est permis de l'accomplir assis, même pour celui qui est capable de se tenir debout. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait parfois d'accomplir la prière de nuit en étant assis. Également, lorsqu'il était en voyage, il accomplissait les prières surérogatoires assis sur sa monture. Et lorsque venait le temps de la prière obligatoire, il s'arrêtait et l'accomplissait debout. On voit donc qu'il y a une distinction à ce sujet entre la prière obligatoire et la prière surérogatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit au sujet de la prière de celui qui l'accomplit assis, comme on le trouve dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, toujours d'après Imran ibn Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Celui qui prie debout, alors cela est plus méritoire. Et celui qui prie assis, il a la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Et celui qui prie allongé, il a la moitié de la récompense de celui qui prie assis. C'est-à-dire le quart de la récompense de celui qui prie debout. Et ce hadith, il concerne la prière surérogatoire, qui est accomplie assis par celui qui est capable de se tenir debout. Quant à celui qui est dans l'incapacité de se tenir debout, et qui prie assis ou allongé en fonction de ses capacités, alors celui-ci, il a sa pleine récompense, incha'Allah ta'ala. Comme le démontre la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, lorsqu'il a dit, lorsque le serviteur est malade ou en voyage, alors on lui inscrit la récompense de ce qu'il faisait lorsqu'il était en bonne santé et résident. Donc ceci est une preuve que celui qui prie assis en raison de son incapacité à se tenir debout, celui-ci a sa pleine récompense et n'est pas concerné par le hadith de Imran que l'on vient de lire précédemment. Mais celui qui prie assis et dont la récompense n'est que la moitié de celle de celui qui prie debout, c'est celui qui accomplit une prière surérogatoire assis alors qu'il est capable de se tenir debout. Il est donc très important de faire la distinction entre ces différentes situations. Et donc, comme on a dit, la station debout, c'est un pilier pour la prière obligatoire, en fonction des capacités de la personne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que celui qui est capable de se tenir debout, ne serait-ce que quelques instants, quelques minutes, le temps de prononcer Takbirat al-Ihram, le takbir de sacralisation, de réciter la Fatiha, ou un peu plus s'il en a les capacités, et qui au bout d'un certain moment ne peut plus rester debout, il en est dans l'incapacité. Alors celui-ci lui incombe de rester debout le temps qu'il peut. Et ne pas faire comme certaines personnes le font aujourd'hui, comme on le voit beaucoup dans les mosquées, de gens qui arrivent debout en marchant, et lorsqu'il arrive à la mosquée, il prend une chaise et s'assoit dessus pour prier. Du début à la fin de sa prière, il reste assis sur cette chaise. Ensuite, il se lève et il repart en marchant. S'il est capable de tenir debout et de marcher, ou pire encore, de rester debout devant la mosquée à discuter, c'est qu'il est capable de tenir debout en prière. Donc celui-ci lui incombe de rester debout autant qu'il peut durant sa prière. Et si la station debout devient longue, que l'imam prolonge cette station, et qu'il a besoin de s'asseoir, alors dans ce cas, il n'y a pas de mal à s'asseoir, inshallah ta'ala. Le deuxième pilier, il dit rahimahullah, le takbir de sacralisation. Vous trouvez en note de bas de page, le mot takbir désigne le fait de dire Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Donc le takbir que l'on appelle takbir de sacralisation, c'est le premier que tu prononces afin d'entrer en prière. Et il est appelé takbir de sacralisation, car à partir de ce moment, à partir du moment où tu l'auras prononcé, il y aura certaines choses qui deviendront interdites pour toi, comme le fait de boire, de manger, de parler, ainsi de suite, parmi les choses que l'on ne peut pas faire en prière. Et la preuve de ce pilier, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith authentique rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et d'autres, rahimahumullah ta'ala, la clé de la prière est la purification. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, son tahrim, sa sacralisation est le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Et vous voyez qu'il a été appelé tahrim, tahrim qui signifie en arabe le fait de rendre interdit. Comme on a dit, parce que cela te rend interdit certaines choses qui te sont permises en dehors de la prière. Et ce takbir, il ne peut avoir lieu que par les termes que l'on a énoncés, c'est-à-dire en disant Allahu Akbar. Il n'est pas permis de dire une autre parole à la place, comme le fait de dire Allahu A'zam, ou alors Allahu Ajal, ou d'autres formes de glorification à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il est obligatoire de prononcer cette parole en ces termes, Allahu Akbar. Et il est obligatoire de prononcer ce takbir en étant debout. C'est-à-dire que lorsque tu te lèves pour prier, tu ne prononces pas ce takbir avant de bien te tenir debout. Il y a certaines personnes, par exemple, ils sont assis, ils veulent se lever pour prier, ils commencent à se lever, il n'est pas encore réellement debout, ils lèvent déjà les mains en disant Allahu Akbar. Puis ils continuent de se lever. Et ceci est une erreur. Mais il est impératif que tu te tiennes debout avec humilité, puis ensuite tu prononces ce takbir pour commencer ta prière. Le troisième pilier est la récitation de la Fatiha. Et ce, d'après le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre, Fatihat al-Kitab, c'est-à-dire Surat al-Fatiha. Il n'y a pas de prière, cela signifie il n'y a pas de prière valide. Celui qui ne récite pas Surat al-Fatiha dans sa prière, dans chacune de ces unités, sa prière est invalide. Et ceci est un pilier aussi bien pour celui qui prie seul que pour l'imam ou celui qui prie derrière lui. Et ce, aussi bien dans les prières à voix haute que dans les prières à voix basse. Et ce, selon l'avis le plus juste parmi les avis des gens de science et qui est l'avis de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. On a vu dans le premier cours lors de l'explication de Surat al-Fatiha, le hadith al-Qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a nommé Surat al-Fatiha la prière. Et ce lorsqu'il dit selon le sens, la prière a été partagée entre moi et mon serviteur, en deux parties. Puis ensuite, il nous mentionne les versets de Surat al-Fatiha. Les savants ont dit que ceci nous montre que la récitation de la Fatiha est le pilier le plus important de la prière à tel point qu'il a été nommé prière. Il incombe donc à chacun d'entre nous de donner de l'importance à ce pilier et de ne pas le négliger, de réciter Surat al-Fatiha dans chacune de nos unités de prière, de nous appliquer dans la récitation de cette surat, d'apprendre à la réciter comme il se doit, et également de méditer l'essence de cette surat et de ne pas se limiter à de simples mots et de simples syllabes que l'on prononce avec nos langues sans chercher à en comprendre le sens. Quant à la récitation de ce qui vient après Surat al-Fatiha, comme verset du Coran ou autre surat, on verra dans la leçon 10 que ceci est une sunnah, c'est-à-dire que cela est recommandé, mais cela ne fait pas partie ni des piliers, ni des obligations de la prière. C'est seulement la récitation de Surat al-Fatiha qui est indispensable et qui est un pilier de la prière. Et celui qui ne connaît pas Surat al-Fatiha, comme celui qui vient d'entrer en islam, alors il lui incombe tout d'abord de faire des efforts pour apprendre cette surat. Mais s'il vient un temps de prière, avant qu'il n'ait appris cette surat, qu'il ne la connaît pas encore et qu'il n'est pas capable de la réciter, alors que doit-il faire? Dans ce cas-là, il dira à la place de la récitation de la Fatiha des formules de rappel, de glorification et de louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme en disant Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et ce comme il est venu dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à celui qui avait mal accompli sa prière, si tu connais une partie du Coran, alors récite, sinon loue Allah, glorifie-le, dis la ilaha illallah, puis incline-toi. Ce hadith est rapporté par les imams Abu Dawud et Nasa'i, rahimahum Allahu ta'ala. On voit donc que les règles de notre religion étaient facilitées et qu'il n'y a pas de complications en cela. Celui qui ne connaît pas Surat al-Fatiha, alhamdulillah, il a une solution qui est de prononcer ces formules de rappel. Et en parallèle de cela, il se doit, il lui incombe, de faire des efforts pour mémoriser cette surat afin de pouvoir la réciter dans ses prières. Le quatrième pilier, c'est l'inclination. Et ce d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Ya ayyuhalladina amanu rka'u wasjudu » « Oh vous qui croyez, inclinez-vous et prosternez-vous ». Et également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala en s'adressant à celui qui avait mal accompli sa prière « Puis incline-toi jusqu'à t'immobiliser en inclination ». Donc l'inclination, elle fait partie des piliers de la prière. Elle consiste à se baisser en posant ses mains sur ses genoux. Tu tiens tes genoux avec tes mains en les empoignant à doigts ouverts et tu maintiens ton dos droit de sorte à ce que ta tête soit alignée à ce dernier. Et ceci est la manière la plus complète de s'incliner. Et durant l'inclination, il n'est pas permis de réciter le Coran. Et ce d'après le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il m'a été interdit de réciter le Coran lorsque je suis incliné ou prosterné ». Le cinquième pilier, c'est le redressement après l'inclination. C'est-à-dire qu'une fois que tu es incliné devant ta prière, tu vas te redresser de cette inclination, c'est-à-dire que tu vas te remettre debout. Et cette position, elle est appelée en arabe « al-i'tidal » et elle fait partie des piliers de la prière. Elle ne doit en aucun cas être négligée. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala rapportent, d'après Abi Humayd radiyallahu ta'ala anhu, qui nous décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Lorsqu'il levait sa tête, il se remettait debout jusqu'à ce que chaque os reprenne sa place. » Et dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahumallahu ta'ala d'après Aisha radiyallahu ta'ala anha, elle nous dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il relevait sa tête de l'inclination, il ne se prosternait pas jusqu'à se tenir debout. C'est-à-dire que lorsque tu t'inclines, tu dois ensuite te relever et te maintenir debout un certain temps avant de te prosterner. Non pas comme le font certains prieurs qui disent à toute vitesse, Sami'allahu liman hamida,
Rabbana walakal hamd, il ne se maintient même pas debout et il part déjà en prosternation. Celui-ci a manqué à un des piliers de sa prière, qui est le redressement après l'inclination, l'i'tidal. Tu dois donc impérativement marquer un temps d'immobilité dans cette position. Tu dis Sami Allahu liman hamida. Une fois debout, tu prononces Rabbana walakal hamd sans te précipiter. Et tu ajoutes à cela, si tu connais, d'autres invocations légiférées à ce moment-là. Puis ensuite, tu prononces le takbir et pars en prosternation. Il t'incombe de faire cela avec quiétude, sans précipitation. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, le sixième pilier est la prosternation sur les sept membres. Et méditez bien sur le fait qu'il a insisté en disant sur les sept membres. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, on m'a ordonné de me prosterner sur sept membres. Et ces sept membres, quels sont-ils? Ce sont le front et le nez, qui ne sont comptés que comme un seul membre. Et ce, car lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a montré son front, il a indiqué en même temps son nez, les deux mains, les deux genoux et l'extrémité des deux pieds. Il est donc impératif, lorsque tu te prosternes, que ces sept membres soient prosternés. Tu ne relèves pas ta tête en posant seulement ton front et en gardant ton nez qui ne touche pas le sol. Et également, tu ne lèves pas tes pieds pendant la prosternation. Vois certaines personnes qui se prosternent et ils mettent un pied sur l'autre durant toute la prosternation. Celui-ci ne s'est pas prosterné sur sept membres. Voyez donc l'importance d'apprendre ces règles essentielles de notre religion afin de pouvoir accomplir cette prière qui, comme on l'a dit, est le pilier le plus important de l'islam après les deux attestations de foi, d'une manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, et de la manière que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous l'a légiféré, et de ne pas manquer à ses piliers et à ses obligations, notamment la prosternation, qui, comme vous le savez, est une des positions les plus éminentes de la prière. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Tu te dois donc d'accomplir cette prosternation de la bonne manière, en posant tes sept membres au sol, comme cela est légiféré. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir informé que cette prosternation est le moment où tu es le plus proche de ton Seigneur, il te dit fa'akthiru du'a, alors multipliez les invocations. Donc, tu te prosternes avec humilité sur tes sept membres et tu multiplies l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est un moment propice à l'invocation. Et cette prosternation, elle a de nombreux mérites. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un de ses compagnons, multiplie les prosternations, car tu n'accomplis pas une prosternation pour Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'élève par celle-ci d'un degré et t'efface une mauvaise action. Toutefois, pour bénéficier de cela, il incombe à chacun d'entre nous de se prosterner de la manière légiférée. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, le septième pilier est le fait de s'en relever, c'est-à-dire de se relever de la prosternation. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a ordonné à celui qui avait mal fait sa prière, puis lève-toi jusqu'à marquer un temps d'immobilité assis. Donc tu te prosternes, la première prosternation, puis ensuite tu te relèves, et ceci fait partie des piliers de ta prière. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, le huitième pilier est le fait de s'asseoir entre les deux prosternations. Comme vous le savez, chacune des unités de prière, elle est composée de deux prosternations. Et entre ces deux prosternations, il y a une assise. Et cette assise, elle fait partie des piliers de la prière. Et ce, d'après le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui nous dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il levait sa tête de la prosternation, il ne se prosternait pas jusqu'à se maintenir assis. C'est-à-dire qu'il marquait un temps d'immobilité dans cette assise entre les deux prosternations. Et comme on va le voir dans le pilier suivant, ceci est très important en réalité dans chacun des actes de la prière, de marquer un temps d'immobilité et de ne pas s'empresser et d'aller d'une position à une autre à toute vitesse. Mais tu marques un temps d'immobilité dans chaque acte de ta prière. En effet, il nous dit, rahimahullah ta'ala, le neuvième pilier de la prière, c'est la quiétude dans tous ces actes. Tous ces actes qu'il vient de nous mentionner, la station debout, l'inclination, le redressement après l'inclination, la prosternation, le fait de s'en relever, s'asseoir entre les deux prosternations, il est impératif que tu les accomplisses avec quiétude. C'est-à-dire que lorsque tu te tiens debout, tu te tiens droit de sorte à ce que chaque os soit à sa place. Lorsque tu t'assois, Tu t'assois en marquant un temps d'immobilité, de sorte à ce que chaque os soit à sa place. Et la preuve de ce pilier est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à celui qui avait mal fait sa prière, pars et retourne prier, car tu n'as pas prié. Et ce, à plusieurs reprises. Puis ensuite, lorsque celui-ci lui a dit, ô messager d'Allah, je ne connais rien d'autre que cela, alors enseigne-moi, c'est-à-dire apprends-moi comment prier comme il se doit. Parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, le fait de marquer un temps d'immobilité dans chacun des actes de la prière. Incline-toi jusqu'à ce que tu t'inclines avec quiétude, que tu marques un temps d'arrêt dans cette position, et ainsi de suite. Donc ceci nous prouve que celui qui ne marque pas cette quiétude dans ses actes de sa prière, alors sa prière, elle n'est pas valide, Allahu musta'an. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui ne s'inclinait pas convenablement et qui faisait des prosternations rapides dans sa prière. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un homme mourait dans cette situation, il mourrait sur une autre religion que celle de Mohammed. Il se baisse pour se prosterner et se relève comme un corbeau qui picorerait du sang. Celui qui ne s'incline pas correctement et fait des prosternations à la manière du corbeau est semblable à un infamé qui mange une ou deux dattes. Celle-ci ne le rassaisit pas. On voit à travers ce hadith que la quiétude est un pilier important de la prière et qu'il est obligatoire pour nous de marquer un temps d'immobilité dans nos inclinations et nos prosternations durant la prière et que le fait de délaisser cela est interdit. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié celui qui n'accomplit pas correctement ses inclinations et ses prosternations comme étant sorti de la religion. Et ceci signifie qu'il est semblable à celui qui a délaissé la prière. Car il n'est pas possible qu'il sorte de la religion sans avoir délaissé la prière. Comme on le voit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, entre le serviteur et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Et dans une autre version, celui qui la délaisse a certes mécru. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé celui qui néglige ses inclinations et ses prosternations à une personne affamée qui va manger une ou deux dattes. Ces deux dattes, elles ne vont pas lui suffire, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas le rassasier. Médite donc sur cet exemple. En effet, la prière, elle est-elle la nourriture des cœurs pour le croyant, et ce pour ce qu'elle comprend comme évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, actes par lesquels on se rapproche de lui, récitation du Coran et ainsi de suite. Donc celui qui accomplit cette prière à la perfection, en accomplissant chacun de ses piliers, chacune de ses conditions, chacune de ses obligations, alors celui-ci, il a certes nourri son cœur par cette prière. Et tant qu'il prie de cette manière, alors sa foi sera ferme, inshallah ta'ala. Il obtiendra le salut. Tandis que celui qui néglige ses piliers, néglige ses inclinations, néglige ses prosternations, alors celui-ci, il n'a pas accompli sa prière comme il se doit. De ce fait, il n'a pas nourri son cœur de ce dont il a besoin. Alors son cœur va s'affaiblir. Et il se peut qu'il devienne malade. Jusqu'à en mourir, on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver. De la même manière que le corps s'affaiblira et on deviendra malade s'il est privé de nourriture. C'est donc pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a comparé dans ce hadith celui qui néglige ses inclinations et ses prosternations à quelqu'un qui est affamé et qui ne mange qu'une eau de datte. Cela ne lui suffit pas pour lui donner de la force, pour maintenir son corps en bonne santé et ainsi de suite. Donc on voit à travers cela l'importance pour nous de parfaire nos prières, en accomplissant chacun de ses actes avec quiétude, car ceci fait partie des piliers de la prière. Et ce que je viens de mentionner est un résumé du sens d'une parole de l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Ensuite, le cheikh a dit, le dixième pilier est l'ordre dans les piliers, c'est-à-dire que tu accomplisses chaque acte de ta prière dans l'ordre que l'on vient de mentionner. La station debout, takbir de sacralisation, récitation de la fatiha, l'inclination, le redressement après l'inclination, la prosternation, le fait de s'en relever, s'asseoir entre les deux prosternations, puis viendra ensuite bien évidemment la deuxième prosternation, en accomplissant tout cela avec quiétude. Donc l'ordre dans ces piliers, il fait également partie des piliers de la prière. C'est-à-dire que celui qui va par exemple se prosterner avant de s'incliner, ou alors réciter la fatiha avant de faire le takbir de sacralisation, alors celui-ci, sa prière ne sera pas valide. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait constamment sa prière dans l'ordre que l'on a mentionné. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, priez comme vous m'avez vu prier. Donc celui qui se prosterne avant de s'incliner, ou qui s'incline avant de réciter la surat al-Fatiha, sa prière n'est donc pas valide. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, le 11e pilier est le dernier tashahhud. Donc le tashahhud, on verra ce qui est lié à celui-ci de manière détaillée dans la leçon 9, inshallah ta'ala, car le shaykh lui a consacré une leçon dans laquelle il a mentionné ce qui est lié au tashahhud et à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on se contentera de voir ici que le dernier tashahhud est d'un des piliers de la prière. Et médite sur le fait qu'il a dit le dernier. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si dans une prière il y a deux tashahhud, comme c'est le cas dans les prières à trois ou quatre unités, comme le dhuhr, l'asr, le maghrib ou l'isha, seul le dernier tashahhud est un pilier. Quant au premier tashahhud que tu as accompli à la fin des deux premières unités, alors celui-ci, c'est une obligation de la prière, comme on le verra dans la leçon de demain, inshallah ta'ala. Et le fait que c'est une obligation, cela signifie que si tu l'oublies, alors il peut être compensé par les deux prosternations de distraction à la fin de la prière. Contrairement au dernier tashahhud qui, lui, ne peut pas être compensé. Si tu l'oublies, il est indispensable que tu l'accomplisses. Et il ne suffit pas d'accomplir les deux prosternations pour le compenser, car c'est un pilier de la prière. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, le deuxième pilier est de s'asseoir pour celui-ci, s'asseoir pour le dernier tashahhud. C'est-à-dire que cette assise, elle fait également partie des piliers de la prière. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, lorsque l'un d'entre vous s'assit en prière, qu'il dise at-tahiyatu lillah, puis il mentionna le tashahhud. Ensuite, il dit, rahimahullahu ta'ala, le 13e pilier est la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, dans le dernier tashahhud. C'est-à-dire que lorsque tu accomplis le tashahhud, à la fin de ta prière, il est impératif que tu prononces également la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car ceci fait partie des piliers de la prière. Et comme je l'ai dit, on verra cela avec plus de détails dans la leçon 9, inshallah ta'ala. C'est-à-dire qu'on verra les termes, la manière de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Enfin, il dit, le 14e pilier sont les deux salutations. C'est-à-dire que tu dises à ta droite « Assalamu alaykum wa rahmatullah » puis à ta gauche « Assalamu alaykum wa rahmatullah » et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith que l'on a vu tout à l'heure. La clé de la prière est la purification. Son tahrim, ce qui te permet d'entrer en sacralisation, qui te rend interdit certaines choses, c'est le takbir, le fait de dire « Allahu Akbar » et son tahlil, ce qui te fait sortir de cette prière, ce qui rend pour toi à nouveau licite les choses qui t'étaient interdites en prière, comme le fait de boire, de manger ou de parler. Alors ceci, ce sont les salutations. Le fait de dire « Assalamu alaykum wa rahmatullah »« Assalamu alaykum wa rahmatullah » Et les savants ont divergé concernant le fait de savoir est-ce que les deux salutations sont un pilier de la prière ou seulement la première. Vous avez vu que lorsqu'on fait les salutations à la fin de la prière, on prononce une salutation sur la droite, puis une salutation sur la gauche. Donc, est-ce que ces deux salutations constituent un pilier de la prière ou alors seulement la première? Vous avez vu que le shaykh ici, rahimahullah ta'ala, il nous dit les deux salutations. Et ce, car c'est l'avis qu'il soutient. Et la majorité des savants considèrent qu'une seule salutation suffit et que la deuxième est seulement recommandée. Mais à partir du moment où tu sais que certains savants ont considéré qu'il était obligatoire de faire les deux salutations, alors le mieux est de faire les deux salutations dans ta prière. Car cela est plus complet et te permet de sortir de la divergence. Toutefois, celui qui ne fait qu'une seule salutation, en ayant la conviction que cela est suffisant, et que le hadith rapporté, mentionnant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait parfois une seule salutation, est authentique. Alors celui-ci, sa prière est valide, inshallah ta'ala. Toutefois, comme on a dit, le plus prudent est d'accomplir les deux salutations. Et ces salutations, elles peuvent se faire de différentes manières. La première manière est la plus connue, et que tu tournes ta tête à droite, puis que tu dises « Assalamu alaykum wa rahmatullah ». Ensuite, tu tournes ta tête à gauche, et une fois ta tête à gauche, non pas pendant que tu tournes ta tête, mais une fois ta tête à gauche, tu redis à nouveau « Assalamu alaykum wa rahmatullah ». La deuxième manière, c'est que tu tournes ta tête à droite, puis que tu dises « Assalamu alaykum wa rahmatullah ». Puis que tu tournes ta tête à gauche en disant seulement « Assalamu alaykum ». Sans ajouter « wa rahmatullah ». Ceci est une autre manière authentique de faire les salutations en prière qui nous est rapportée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La troisième manière, c'est que tu dises à droite, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu rajoutes donc wa barakatuh. Puis ensuite, tu dis à gauche, assalamu alaykum wa rahmatullah. Sans rajouter wa barakatuh. L'ajout wa barakatuh, il n'est rapporté qu'à droite et non pas à gauche. Donc tu dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à droite, puis ensuite assalamu alaykum wa rahmatullah à gauche. Ceci sont trois manières confirmées d'accomplir les salutations aux prières qui nous sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la quatrième manière, qui est celle sur laquelle ils ont divergé, est le fait de dire simplement « Assalamu alaykum » en tournant un peu la tête vers le côté droit. Et comme on l'a mentionné, les savants ont divergé au sujet de l'authenticité du hadith rapporté à ce sujet. Le plus prudent est donc d'accomplir les deux salutations en prière, sortant ainsi de cette divergence. On a donc terminé avec ces questions liées au pilier de la prière. On verra dans la leçon de demain, inshallah ta'ala, les obligations de la prière. On va donc s'arrêter là, inshallah ta'ala. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.